Bonjour Christine Campagna.
Bonjour Marianne.
Un plaisir de te retrouver en 2016 pour la poursuite de ces chroniques sur les grands noms de la médecine et de la science. Aujourd'hui, Dr Penfield, et je suis contente que tu en parles parce que j'ai toujours eu cette curiosité. À l'époque où mon frère étudiait à McGill, lorsqu'on allait te visiter, ben, on passait par là. Ben, en fait, on passait par l'avenue Dr Penfield. Je me demandais qui était ce monsieur. On dit l'un des médecins les plus éminents du Canada, mais c'est pas un Canadien, Dr Penfield.
Non, il est né aux États-Unis, mais c'est vraiment ici qu'il est devenu célèbre, qu'il a perfectionné une technique, on y reviendra, qui s'appelle la technique de Montréal, carrément. Et moi, le souvenir que j'avais, à part le fait d'être déjà passé sur l'avenue, c'est qu'il y avait une minute du patrimoine au sujet du Dr Penfield. Je pense que c'est dans les années 90, où c'était des reconstitutions d'époque, et où on le voyait parler à un patient pendant une opération. Parce que c'est ça, la technique de Montréal. On va y venir dans quelques instants. Oui, il est né à Spokane, dans l'État de Washington. Il a débuté ses études à Princeton. C'est là qu'il décide d'étudier la médecine, tout d'ailleurs comme son père et son grand-père. Et il dit que ça lui semblait être la meilleure façon d'améliorer le monde. Mm-hmm. Alors, hein, l'homme a une motivation. Ensuite, il étudie en Angleterre, à Oxford, et c'est là qu'il est initié à l'étude du cerveau humain, à la neurophysiologie au départ. Il entre ensuite à l'école de médecine John Hopkins de Baltimore, au Maryland, où il obtiendra son doctorat en 1918.
Et est-ce que l'on sait pourquoi, à un moment donné dans sa vie, cet homme-là s'est dit « moi, je vais aménager à Montréal ».
Je ne sais pas. Je sais qu'il vient d'abord pour travailler à l'hôpital Royal Victoria. Et peut-être à leur invitation, peut-être que... J'ai pas vu passer de renseignements là-dessus, mais je sais que nous savons que c'est en 1934, grâce à un don important de la Fondation Rockefeller, mm-hmm. au soutien du gouvernement du Québec, de la Ville de Montréal, il y avait des donateurs privés, ça impliquait vraiment beaucoup d'argent. Et c'est là qu'est fondé l'Institut neurologique de Montréal, qui deviendra un centre international d'enseignement, de recherche et de traitement des maladies. Une des personnes, première personne qui l'a opéré, c'est sa sœur qui avait une tumeur au cerveau. Et ça fait partie de ça, le fait qu'il ait développé cette technique-là avec ses collaborateurs qu'on appellera la technique de Montréal et qui consiste à administrer une anesthésie locale au patient pour lui permettre de rester éveillé et de pouvoir décrire ses réactions pendant que le Dr Penfield, lui, stimule différentes zones de son cerveau. C'est ça qu'on pouvait voir dans la minute du patrimoine.
Mais ça devait être assez impressionnant. Vous avez eu la chance de visionner ça. Comment ça peut fonctionner de dire, OK, opération du cerveau, mais en même temps, le patient est apte à répondre à nos différentes questions.
Je me souviens que dans la reconstitution de la minute du patrimoine, il touchait la partie du cerveau d'une personne qui disait sentir une odeur de rôti brûlé.
Ah oui,
suite à cette stimulation-là.
rôtis étant mes neurones.
Mais le principal avantage de ça, c'est que c'est une méthode qui va servir à traiter l'épilepsie sévère. Parce que ça permet de cerner la zone précise qui est responsable des convulsions et ensuite d'enlever cette partie-là, plutôt d'y aller de manière hypothétique et possiblement d'enlever, parce que quand on enlève des parties du cerveau, on peut enlever des fonctions aux gens. Donc, c'est une méthode assez risquée. D'ailleurs, elle demeure réservée aux formes d'épilepsie qui sont résistantes à la médication, qu'on appelle donc pharmacorésistante. Et c'est son principal apport, là, je dirais, dans l'histoire de la médecine. Mais tout en pratiquant cette méthode-là, il est un peu devenu le cartographe du cerveau. Le clin d'œil qui m'est passé par la tête en préparant ma chronique, c'est une sorte de Samuel Champlain du cerveau. Parce qu'il se sert des données recueillies lors de ces interventions-là pour dresser des cartes du cortex cérébral, qui est la surface du cerveau. Et pour la première fois, donc, il identifie des zones associées au langage, par exemple, et découvre que la stimulation des lobes temporaux éveille chez le sujet des souvenirs d'une netteté surprenante, qui est comme le fondement scientifique du fait que la mémoire, ça se situe de manière physique dans le cerveau.
Et d'ailleurs, lui-même a prêché par l'exemple, même à la retraite, en maintenant son cerveau très, très actif, parce qu'il disait, si on cesse d'utiliser notre mémoire, si on cesse d'utiliser nos facultés cognitives, on les perd.
Oui, il craignait le repos cognitif. Alors, à sa retraite, il se lance dans l'écriture, il écrira ses mémoires, il écrira des ouvrages scientifiques et il deviendra auteur de romans historiques et de biographies médicales.
OK. Donc, c'est aussi une forme l'ensemble de son héritage, parce que maintenant, on peut consommer sa littérature.
Voilà, exactement. Et dans son héritage, il y a l'homonculus de Pinfield, qui est une représentation du cerveau. Et on dit, les gens disent que ça ressemble en plus à une forme humaine. Il y a une forme d'épilepsie qu'on appelle le syndrome de Pinfield, qui est une épilepsie causée par une tumeur qui pousse sur l'hypothalamus. Bien entendu, son héritage le plus durable, c'est l'Institut neurologique de Montréal, qui continue d'être un des centres d'études du cerveau le plus important au monde. Et on lui rendra, pour toutes ses contributions, régulièrement hommage, autant de son vivant qu'après son décès. Monsieur, le docteur Pinfield est décédé à Montréal le 5 avril 1976.
Mmh. Assez récent quand même, et je continue à être quand même impressionnée de cet homme, bon, on le disait, qui est né aux États-Unis, qui a étudié aussi un petit peu partout dans le monde, à New York notamment, mais qui est vraiment revenu s'installer, faire sa place ici, qui a laissé une grande contribution, je dirais, là, au monde de la médecine canadienne.
Oui, c'est comme s'il avait été, parce qu'il a rencontré plusieurs professeurs qui ont marqué son intérêt pour le cerveau, pour différentes méthodes, et c'est comme si après avoir passé par ces différentes écoles et hôpitaux aux États-Unis, en Europe, en Allemagne, en Espagne, entre autres, comme si, au bout du compte, c'est à Montréal qu'on avait profité de tout ce savoir accumulé.
Mais je me dis qu'il avait peut-être cette idée que tout était possible ou tout était à construire ici, qu'il avait cette marge de manœuvre pour expérimenter, qu'on lui laissait cette place-là et qu'il a eu le loisir là, d'exercer la médecine qu'il imaginait. Il y a un prix aussi à son nom.
Oui, il y a, le gouvernement du Québec a créé un prix qui s'appelle le prix Wilder Pinfield. Ça existe depuis 1993. Je n'ai pas exactement à qui c'est remis, par exemple, malheureusement. Mais il y a aussi il a reçu la médaille internationale de chirurgie dès 1958.
Ouais.
Un des premiers membres de l'Ordre du Canada. Et c'est depuis 1978 que la rue qui s'appelait auparavant McGregor porte son nom. Et c'est une rue où on trouve plusieurs pavillons de l'Université McGill.
Donc, 2 ans après son décès.
Exactement.
Et aussi, il fait partie, et ça, je ne savais pas que ça existait, du Temple de la renommée médicale canadienne. Moi, je connaissais le Temple de la renommée pour les hockeyeurs.
Je connaissais celui du rock, de la musique. Mais je me suis dit, en fait, en voyant ça, que c'est peut-être la source où aller chercher pour des prochains sujets de chronique.
Mais voilà, parce que vous serez des nôtres dans 3 semaines. Donc, toujours une chronique qui est mensuelle, Christiane Campagna, sur l'histoire, qui est votre dada, l'histoire des grands noms de la médecine et de la science. Merci beaucoup pour ces lumières.
Ça fait plaisir.